Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, les versets 25 à 38. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve. Âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Il est rare de lire dans les évangiles autant de détails sur des personnages autant que nous pouvons en lire au sujet de Siméon et d'Anne. Ces deux figures, présentes seulement à 7 endroits dans l'œuvre de Luc, sont riches de précisions qui tracent 2 précieux portraits de croyants pour interpréter, dans les 2 sens du terme, notre propre existence devant Dieu. Siméon est l'homme qui attend, mais il est d'abord l'homme qui écoute, et c'est ce que signifie son nom. Il écoute, Siméon. Et Luc ne nous laisse pas hésiter. Siméon vit à Jérusalem, la ville du temple, là où se déroulent les grands et petits événements de la foi du peuple et des personnes, là où les diverses prescriptions de la loi sont accomplies, là où la présence de Dieu est reconnue. L'écoute de Siméon s'inscrit là, en écoute de Dieu. Siméon est également un homme juste et pieux, et c'est toute une manière de vivre qui est condensée dans ces 2 mots. La justice dit que Siméon oriente toute son existence selon la parole de vie, parole qui résonne au cœur et à la conscience de chacun, en permettant de discerner ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et sans jamais se croire le maître du bon. Car la justice que Siméon met en œuvre, qu'il incarne, ne s'enracine pas dans une compréhension mondaine de la justice, mais dans celle de Dieu, dont témoignent les Écritures, et particulièrement les prophètes. La piété dit le soin que Siméon apporte à sa relation à Dieu, c'est-à-dire à sa foi, du soin, du temps, de l'attention, parce que la foi, ça ne va pas de soi. Elle s'entretient, elle s'approfondit, elle se transforme, restant ainsi vivante, sans s'endormir dans la routine ou sans s'éteindre par manque de nourriture. Cependant, sa justice et sa piété, parce qu'elles sont véritables, justice et piété, ne sont pas suffisantes à Siméon. Il attend encore. Il manque encore de ce qui ne peut venir de lui, de ce qu'il ne peut atteindre par lui-même et qui est, dans le vocabulaire de Luc, consolation et salut. Alors Siméon veille aussi sur ce manque. Il veille à ne pas le combler de ce qui viendrait d'ailleurs que de Dieu. Il veille aussi à ne pas l'oublier. Donc, Siméon écoute. Il se tient à l'écoute de l'Esprit, l'énergie créatrice selon le premier chapitre de la Genèse, l'Esprit Saint que Luc mentionne par 3 fois en 3 lignes. Nous sommes bien avertis. Mais aussi, Siméon vit parmi son peuple, à Jérusalem. Il n'est pas à l'écart, mais au milieu, avec tous. Il écoute aussi ce qui bruisse autour de lui et qu'il peut également éprouver, le joug de l'occupation romaine, l'aspiration à la liberté, l'attente messianique. Siméon ne se sépare pas de son peuple. Et ce qu'il attend, c'est la consolation d'Israël, non pas la sienne seulement, mais celle de tout Israël. Siméon s'inscrit dans un ensemble, dans un collectif, un commun, dont il entend et dont il partage la souffrance et l'espérance. Et ne sommes-nous pas, nous aussi, participants à un ensemble aux dimensions même de l'humanité entière, dimension universelle d'une humanité qui souffre, qui espère, qui souffre particulièrement collectivement, même si c'est d'une manière inégale depuis presque 2 ans qu'une pandémie s'est déclarée, mais une humanité qui souffre depuis fort, fort longtemps de maux récurrents, d'injustice, de violence, et qui est aussi en proie à de nouvelles menaces, perturbations provoquées par exemple par la crise climatique. La solidarité avec celles et ceux qui nous entourent et avec l'humanité entière, à l'image de celle de Siméon avec le peuple d'Israël, cette solidarité, même si elle ne peut parfois s'exprimer que par la prière, par un cri, un gémissement, un soupir, cette solidarité tient en éveil, en vigilance, en inquiétude du monde, pour le monde, tout comme en présence compatissante et espérante lorsque l'espérance vient à manquer autour de soi. Et lorsque l'Esprit Saint pousse Siméon au temple, eh bien Siméon l'écoute, déjà averti qu'il verrait de son vivant le Christ du Seigneur. Anne aussi se rend au temple. Peut-être même y est-elle déjà, puisqu'elle ne s'en éloigne pas, écrit Luc. Elle est une vieille dame de 84 ans, veuve après 7 ans de mariage. Luc joue ici avec le chiffre 7, un chiffre de plénitude, puisque 84, c'est 7 fois 12. La plénitude qui caractérise le personnage de Luc est également inscrite dans son nom, car Anne, en hébreu, signifie « grâce ». Dans le nom de son père également, Phanuel, c'est-à-dire « face de Dieu » comme une relation de foi soutenue. Dans le nom de sa tribu, d'Azer, qui évoque aussi bien le bonheur que le fait d'avancer. Et vous savez, c'est ce pourquoi André Chouraki, dans sa traduction de la Bible, traduit les béatitudes. Dans les béatitudes, le mot « heureux » par l'expression « dynamique » d'En Marche. Et puis aussi parce qu'Anne est prophétesse et qu'elle est aussi emplie de souffle saint qui inspire sa propre parole. Anne passe tout son temps au temple, au culte. Et ce culte, ce n'est pas seulement un rassemblement une fois par semaine. C'est aussi une manière de vivre, comme la justice et la piété de Siméon. Une manière de vivre en rendant grâce, en gratitude, en faisant des heures, des relations, de chaque circonstance de vie, une forme de prière, une forme de louange ou d'intercession et ou d'intercession. Il ne faudrait pas en conclure que Luc dresse un portrait idyllique, parce que tout de même, Anne est veuve, il n'est pas fait mention d'enfant, ce qui la laisse socialement extrêmement vulnérable. Mais voici donc ces deux croyants âgés, ces deux vieux pratiquants, mais pas désabusés du tout, qui voient ce jour-là, dans le temple, le Sauveur, en cet enfant amené par son père et sa mère afin d'accomplir les prescriptions de la loi. Les autres personnes présentes dans le temple ne voient certainement là qu'un enfant amené par son père et sa mère afin d'accomplir les prescriptions de la loi. Une scène tellement courante et anodine que c'est à peine si on y prête attention. Des parents qui font ce qui doit être fait selon la loi, il n'y a là rien d'extraordinaire, il y en a tous les jours au temple. Mais ce que font comprendre ces deux figures de Siméon et d'Anne, c'est que ce qu'elles représentent de piété, de justice, d'action de grâce, c'est-à-dire d'orientation de vie devant Dieu avec persévérance, eh bien cela s'incarne, peut s'incarner dans toute vie quotidienne, hier comme aujourd'hui, à Jérusalem comme à Paris. C'est dans le quotidien qu'il nous est possible de voir autre chose que les apparences, qu'il est possible de voir dans une naissance l'advenue d'un monde nouveau, de voir dans l'obéissance à un rite l'ouverture vers une foi renouvelée. Et cela, c'est le fruit de l'Esprit-Saint, l'œuvre de l'Esprit en une femme, un homme, l'œuvre qui éclaire autrement le regard et l'intelligence et donne à de petits événements du quotidien un goût de grâce et la dimension d'un signe du royaume. Alors, de Siméon et d'Anne s'élèvent des louanges. Et pourtant, tout n'est pas idéal pour eux, l'âge, la fragilité. Et pourtant, ce que l'Esprit-Saint inspire à Siméon au sujet de cet enfant n'évoque pas précisément une marche triomphale. Et son avertissement à Marie annonce un tranchant et une souffrance. Mais pourtant, c'est bien une louange qui s'élève. De même qu'au culte, la louange suit la proclamation de la grâce et l'invocation qui ouvre la célébration. Et cela, quelles que soient les circonstances personnelles ou collectives, même quand des malheurs, même dans les malheurs et dans les difficultés, même quand il n'y a pas de visibilité sur les temps qui viennent. Car ce qui suscite la louange, ce n'est pas que tout aille bien en soi, pour soi ou autour de soi. Ce qui suscite la louange, c'est que le salut est venu. Cet enfant que Siméon tient dans ses bras est né. Et depuis cette naissance, le salut est venu. Et il n'est pas reparti. Les pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité n'y changent rien, et les plus éprouvantes d'une histoire singulière non plus. Cette puissance mobilisatrice et transformatrice qu'on appelle le salut ne dépend pas des événements heureux ou malheureux qui surviennent, mais du Christ de Dieu. Le petit enfant dans les bras de Siméon est ce salut, déjà né, déjà donné, en qui est inaugurée une nouvelle existence, salut qui ouvre un nouvel avenir pour celui ou celle qui le reçoit par cette ouverture d'âme et d'esprit à l'Esprit de Dieu, à l'œuvre de Dieu en lui ou en elle. La louange chante la fidélité et la confiance, l'amour et l'espérance de Dieu envers les humains, envers toute sa création. La louange célèbre ce don, reprise ensuite dans le culte par la confession de foi, manière de dire « Ma raison de vivre est en Dieu, profondément, à la racine de mon existence et de manière ultime, ma raison de vivre est en Dieu. Louange et confession de foi traduisent une dynamique d'intégration de l'être vers une plénitude d'être ou même comme une plénitude d'être pour Siméon, pour Anne, pour tous ceux qui louent, confessent leur foi. Espérance, foi, louange, existence, tout cela est intégré, réuni dans l'esprit. Et c'est ce qui permet de se tenir dans tout le reste du temps. Louange, foi et bénédiction. Bénédiction de Dieu, bénédiction de l'enfant et de ses parents par Siméon. Une bénédiction qui, nous l'avons vu, ne fait pas l'économie des difficultés que soulèvera l'Évangile puissance de salut incarnée par l'enfant de Marie. Les contradictions précèdent les oppositions qui annoncent la passion. Le signe qui provoque la contradiction et la contestation indique aux disciples de tous les temps que l'horizon nouveau n'est pas celui d'une conquête glorieuse de l'humanité. De même, chute et relèvement sont une manière de condenser le parcours d'une même existence qui n'est jamais complètement linéaire, égale. Quand ton glaive qui transpercera l'âme de Marie, ce peut être aussi bien la mort de son fils sur la croix, que la séparation opérée à l'intérieur du peuple d'Israël par celui qui est né d'une femme juive et qui sera rejeté par une grande partie de son peuple, ou encore la séparation du peuple juif de ceux qui suivront le fils de Marie malgré la croix et après Pâques. Louange, foi, bénédiction, Siméon a vu ce qu'il attendait, la consolation d'Israël. Cette consolation qui traverse les Écritures hébraïques par le moyen de différents noms, Noé, c'est la consolation, Néhémie ou Naoum, un des 12 petits prophètes, mais aussi par l'intermédiaire justement des prophètes et particulièrement le livre du prophète Ésaïe, dont une des parties est souvent appelée le livre de la consolation, car il commence par cette exhortation « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que son esclavage a pris fin. » Consolation comme annonce du retour d'exil, annonce d'une libération, consolation comme une eau de pluie bienfaisante sur une terre desséchée, consolation comme une forme particulière de grâce et de justification des personnes. Consolation comme profond amour, comme action créatrice de l'esprit souffle de Dieu. Et cette consolation est aussi présente dans le Nouveau Testament, sous différentes harmoniques, dans les écrits de Paul, dans la lettre aux Hébreux, dans l'évangile de Jean, qui donne à l'esprit ce nom traduit aussi parfois par le défenseur ou l'avocat. Dans l'évangile de Jean, l'esprit c'est le paraclète en grec et c'est le consolateur promis aux disciples par Jésus s'apprêtant à quitter les siens. Un esprit consolateur qui ne laissera pas les disciples seuls et démunis, mais qui sera à l'œuvre en eux. Et ainsi nous comprenons que la consolation du monde ne passe pas par d'autres voies que les disciples, par celles et ceux qui, dans l'esprit souffle de Dieu, louent et bénissent à leur manière. Nous comprenons que l'être au monde des croyants dans leur quotidien s'incarne dans le passage de la consolation reçue à la consolation offerte. Car celui qui est consolé devient consolateur, ce qui n'est pas lénifiant, mais aimant et encourageant, et sans facilité pour apporter dans l'épaisseur des routines, dans l'incertitude des temps, dans le poids des décisions, dans l'obscurité des détresses, ou le désespoir des solitudes, à la fin d'une année éprouvante, à l'orée d'une année dont nous ne savons pas ce qu'elle sera, apporter une parole et une présence de consolation. Amen.